VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Villon à ce micro, au sommaire de cette édition du lundi 20 mars 2023. En France, la réforme des retraites adoptée après le rejet de deux motions de censure. Le président russe Vladimir Poutine reçoit aujourd'hui à Moscou son homologue chinois Xi Jinping. L'Irak toujours à la croisée des chemins, 20 ans après la guerre qui a vu la chute de Saddam Hussein.
Ni le gouvernement fédéral de Bagdad, ni le gouvernement régional du Kurdistan d'Irak n'ont prévu de cérémonie ce lundi.
Jacques Aristide fera le point dans la partie magazine en Centrafrique. Une enquête a été ouverte après le meurtre de 9 Chinois dans une attaque. Le Français Olivier Dubois et l'Américain Jeffrey Woodkey, otages au Sahel, ont été libérés. Manifestation au Kenya, tir de gaz lacrymogène contre le convoi du principal opposant. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute déco. Pour l'instant, le journal. Je le tiens en titre, la réforme des retraites en France a été adoptée après le rejet de deux motions de censure. Avec le rejet de ces deux motions, le gouvernement peut désormais faire aboutir son projet de réforme des retraites qui doit néanmoins encore être promulgué par le chef de l'État français, Emmanuel Macron, après d'éventuels recours devant le Conseil constitutionnel. Le président russe Vladimir Poutine s'est dit ouvert à des discussions sur le plan de paix chinois pour l'Ukraine avec son homologue chinois Xi Jinping, qui a en retour salué les relations étroites entre la Russie et la Chine au début aujourd'hui d'une rencontre très attendue à Moscou. Jacques Aristide.
La visite d'État de 3 jours en Russie entamée par Xi Jinping arrive un peu plus d'un an après le déclenchement de l'offensive russe contre l'Ukraine qui a provoqué des bouleversements géopolitiques et économiques. Malgré ses relations privilégiées avec Moscou en pleine tension avec l'Occident, Pékin, qui revendique une influence diplomatique à la hauteur du poids de l'économie chinoise, se pose en médiateur et a proposé le mois dernier une initiative pour régler le conflit. « Nous sommes toujours ouverts à un processus de négociation. Nous discuterons sans aucun doute de toutes ces questions, y compris de vos initiatives, que nous traitons avec respect », a déclaré Vladimir Poutine au début d'un entretien informel avec Xi Jinping au Kremlin. De son côté, le président chinois a salué les relations étroites entre Pékin et Moscou qui ont une coopération stratégique globale, selon la traduction en russe de ses propos. Ce voyage du dirigeant chinois intervient alors que son homologue russe est visé depuis la semaine dernière par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre.
La Cour pénale internationale a réclamé aujourd'hui le soutien et la persévérance de la communauté internationale pour l'aider dans ses investigations sur les crimes de guerre présumés commis en Ukraine 3 jours après l'émission d'un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine. En représailles à la décision de la CPI qu'elle a qualifiée de nulle et non avenue, la Russie a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une enquête pénale contre le procureur de la CPI, Karim Khan, et 3 autres juges de cette Cour. La Commission européenne s'est engagée aujourd'hui a versé 1 milliard d'euros d'aide pour la reconstruction de la Turquie et 108 millions d'euros d'assistance humanitaire à la Syrie après le séisme du 6 février qui a fait plus de 56 000 morts dans ces deux pays. Lors d'une conférence internationale des donateurs à Bruxelles, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a souligné que les besoins des rescapés étaient énormes et qu'il fallait y faire face urgemment. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a estimé à quelque 104 milliards de dollars le coût des dégâts dans son pays. En Syrie, les dégâts sont estimés à 8,9 milliards de dollars par l'ONU et le coût des réparations d'urgence à 14,8 milliards.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité sur le continent, en République centrafricaine, c'est la consternation après l'assassinat hier de 9 ressortissants chinois. Ils ont été abattus par des hommes armés dans un chantier minier non loin de Bambari, dans le centre du pays. Les autorités centrafricaines accusent la rébellion de la CPC d'en être à l'origine, accusation rejetée par les rebelles. À Bangui, pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
Dimanche, aux environs de 5h du matin, des hommes armés prennent pour cible le chantier minier de Chingolo, situé à 25 km de Bombari, dans le centre de la République centrafricaine. Les assaillants ciblent les employés de l'entreprise chinoise Gold Coast Group, spécialisée dans l'exploitation de l'or. Bilan, au moins 9 ressortissants chinois tués et 2 autres grièvement blessés par balle. Quelques heures après le drame, Bangui réagit et pointe du doigt les rebelles de la coalition des Patriotes pour le Changement, CPC, dirigée par l'ancien président François Bozizé. Dans un communiqué, le gouvernement centrafricain dénonce un acte odieux qui ne restera pas impuni. Serge Ghislain Diori, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement.
Le gouvernement condamne avec la plus grande fermeté cet acte odieux de la nébuleuse CPC, dont l'objectif est de décourager les investisseurs désireux de soutenir les efforts entrepris par son Excellence Monsieur le Président de la République, Faustin Archange Touadéra. Cet acte ne resterait pas impuni.
Dans un communiqué publié ce même dimanche, la CPC rejette sa responsabilité dans la tuerie. Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer cette attaque qualifiée d'un acte terroriste. Les corps des victimes ont été ramenés le même jour à Bangui. Ce drame intervient alors que 3 ressortissants chinois sont encore retenus en otage par des hommes armés dans l'ouest de la République centrafricaine. Ils ont été kidnappés la semaine dernière, non loin de la ville de Aba, dans la préfecture de la Nanamombéré, proche du Cameroun. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
2 otages occidentaux détenus par des groupes terroristes au Sahel ont été libérés. Il s'agit d'un humanitaire américain et d'un journaliste français. Ils sont arrivés à Niamey, au Niger, ce lundi. Les précisions de notre correspondant sur place, Abdul Razak Idrissa.
Les premiers mots de Jeffrey Woodke ont été de remercier Dieu de lui avoir permis de revenir dans son deuxième pays, le Niger.
Après Dieu, je remercie le gouvernement nigérien. Le gouvernement américain et la France. Je suis très content d'être encore à Niamey, au Niger, mon deuxième pays. Bonjour à ma famille.
L'humanitaire américain aura passé plus de 6 ans en captivité. Sa libération et celle du journaliste français Olivier Dubois, enlevé en territoire malien par les éléments du GNIM, groupe djihado-terroriste actif en Afrique de l'Ouest et au Sahel, ont été facilités par les autorités nigériennes. Et c'est le ministre nigérien en charge de l'Intérieur, Amadou Adamou Souley, qui est parti à l'aéroport les accueillir en compagnie de l'ambassadeur français au Niger et de la première secrétaire des affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Maison-Blanche s'est dite soulagée après la libération de l'otage américain. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale, a remercié le Niger sur Twitter pour l'aide apportée dans le cadre de cette libération. Libération également au Mali, 2 employés du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, enlevés il y a 2 semaines dans le nord du Mali, ont été libérés sains et saufs et sans condition, a annoncé l'ONG dans la nuit de dimanche à lundi. Ils avaient été enlevés le 4 mars entre les villes de Gao et de Kidal. Le CICR souligne qu'il ne divulguera ni les noms ni les nationalités des 2 employés pour protéger leur vie privée. Au Kenya, la police a tiré des gaz lacrymogènes ce lundi à Nairobi contre un convoi de Raila Odinga. Le chef de l'opposition a appelé ses partisans à des manifestations hebdomadaires contre l'inflation et le gouvernement. Le point avec Yakuba Ouédraogo.
Ce sont les premiers troubles majeurs depuis l'arrivée au pouvoir de William Ruto. Chaque lundi, il y aura une grève, il y aura une manifestation, la guerre a commencé et ne se terminera pas tant que les Kenyans n'auront pas obtenu leur droit, a déclaré Raila Odinga. Un peu plus tôt, la police a tiré des gaz lacrymogènes et fait usage de canons à eau contre son convoi. Des affrontements ont aussi éclaté entre des manifestants jetant des pierres et les forces de l'ordre utilisant gaz lacrymogène et canons à eau dans certains quartiers de Nairobi comme Kibera. Des affrontements se sont aussi produits à Kisumu dans l'ouest, autre bastion de Raila Odinga. Une 20aine de manifestants ont été arrêtés. Parmi eux, 2 parlementaires, Stewart Matsayo, chef de la minorité au Sénat, et le député Opiyo Wandayi, tous 2 membres du parti de M. Odinga. L'inflation s'est élevée en février sur un an à 9,2% au Kenya. Les Kenyans souffrent de la chute brutale du shilling par rapport au dollar et d'une sécheresse record qui a plongé des millions de personnes dans la famine. Le vice-président Rigathi Gachagua a appelé à cesser ces manifestations interdites, affirmant qu'elles ont déjà fait perdre 2 milliards de shillings, environ 14 millions d'euros.
En Afrique du Sud, le parti d'opposition économique Freedom Fighters de Julius Malema s'engage à obliger le président Cyril Ramaphosa à démissionner avant la fin de son mandat. Il a lancé lundi un mouvement de protestation à l'échelle nationale pour lui demander de démissionner. L'EFF demande au président, entre autres, de justifier le récent vol dans sa ferme de Palapala et reproche à son administration la corruption dans les institutions publiques, le taux de chômage élevé chez les jeunes et le délestage. Réagissant à cet appel au blocage des institutions en Afrique du Sud, le président Ramaphosa a mis l'armée en état d'alerte, affirmant que l'EFF tentait de renverser son gouvernement. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Eric Manirakiza.
Les chefs d'État des six pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEMAC, ont participé vendredi au Cameroun à une conférence consacrée à la situation économique des pays de la CEMAC, que sont le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Ils ont abordé les conséquences économiques de la guerre en Ukraine, le contexte sécuritaire régional et ses conséquences sur leurs économies. Ils ont salué les mesures économiques exceptionnelles prises pour atténuer les effets de la crise et ont réitéré l'importance de poursuivre le plan de relance économique post-Covid-19. La Banque centrale américaine devra choisir lors de sa réunion mardi et mercredi entre augmenter ses taux et potentiellement alimenter une crise bancaire ou les maintenir à leur niveau actuel, au risque alors de laisser l'inflation s'envoler. Les responsables de la Fed se trouveront donc face à un choix cornélien et devront trouver un équilibre entre les préoccupations liées à la stabilité financière et les préoccupations liées à l'inflation. Car la priorité de la Fed, c'est de juguler l'inflation, toujours bien trop élevée et qui pèse sur le pouvoir d'achat.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Plus que deux journées à disputer dans la conférence Sahara avec la Basketball Africa League.
Oui, le suspense reste entier à la Dakar Arena à deux journées de la fin de la compétition. Deux matchs au programme aujourd'hui et les Ivoiriens d'ABC jouent leur qualification face aux Nigériens de Kwara Falcons. Juste après le choc de cette conférence Sahara, oppose les Rwandais du REG déjà qualifiés pour les playoffs aux Tunisiens de l'US Monastir.
Football avec la fin hier de la cinquième journée des matchs interclubs de la CAF.
Le tout-puissant Mazembe ne verra pas les quarts de finale de la Coupe CAF. Les Corbeaux de Lubumbashi ont été défaits 2-1 au Mali par l'AS Real de Bamako. Malgré cette victoire, l'AS Real n'est pas non plus qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération. Pour le coach malien, il faut simplement tirer les leçons de leur participation à cette campagne africaine.
Par rapport au contenu, je pense que ces équipes, elles n'étaient pas au-dessus de nous, mais elles étaient plus efficaces. Tous les matchs qu'on a joués, c'est des buts qu'on prend. Et on marque pas aussi, même si on ne s'est créé pas beaucoup d'occasions de but. Ils doivent être capables quand même de concrétiser. Et aujourd'hui, on est parvenu à le faire.
Noun Diané, coach de l'AS Real de Bamako, Mazembe, qui a ainsi essuyé sa quatrième défaite de rang, est éliminé. À une journée de la fin de cette phase de groupe, le club de Lubumbashi totalise 3 points bien loin derrière à 7 unités des Tanzaniens de Young Africans.
Des quarts de finale que ne verront pas les deux autres clubs de la RDC.
La faute à leur contre-performance, le Darin Club Motoma Pembe a été battu 2-1 à domicile par l'ASEC d'Abidjan et le Saint-Éloi Loupopo a été accroché 1-1 par l'USM Alger. Du coup, les Ivoiriens et les Algériens ont validé leur ticket, tout comme Marumo Gallant d'Afrique du Sud et Rivers United du Nigeria. Dans la poule C, les Marocains du Phare de Rabat, vainqueurs de Pyramide 1-0 et leaders du groupe C avec 10 points, sont déjà qualifiés pour les quarts, d'où la satisfaction de leur coach Fernando da Cruz.
Sur l'ensemble du match, on a plutôt bien maîtrisé le match. Maintenant, attention, on n'a rien gagné, mais il faut qu'on continue pour aller essayer d'aller chercher quelque chose.
Fernando da Cruz, coach de Phare de Rabat. Les Égyptiens de Pyramide et futur FC classés respectivement 2e et 3e avec 8 points chacun se disputeront la 2e place qualificative de cette poule C.
En Ligue des Champions, 7 équipes ont déjà validé leur qualification pour les quarts de finale.
Le tenant du titre, le Wydad de Casablanca, fait partie. Après son nul 0-0 sur le terrain de l'AS Vita Club de Kinshasa ainsi que les Algériens de la JS Kabylie, vainqueurs 1-0 des Angolais de Petro de Luanda, les deux clubs comptent 10 points chacun dans la poule A. Le second club algérien, le CR Belouizdad, y sera aussi tout comme les Tunisiens de l'Espérance de Tunis dans la poule D. Par contre, Al Merrikh du Soudan et le Zamalek sont out. Dans la poule C, les Tanzaniens de Simba vont accompagner le Raja de Casablanca après leur démonstration 7-0 devant les Guinéens de Oruya. Dans le groupe B, qualification aussi des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns qui se sont contentés d'un nul un partout au Soudan face à Al Hilal. Le dernier ticket se jouera justement entre le club soudanais et les Égyptiens d'Al-Ali du Caire.
Page des sports VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Bénin, elles sont nombreuses, ces femmes, à opter pour l'entrepreneuriat. Parmi elles, Alice Koura Yasso, sa particularité, son choix de la haute couture, malgré sa licence en analyse des projets, son master en statistique et économie, ainsi que la promesse d'un poste à la taille de ses compétences dans un grand cabinet. Le portrait de cette femme qui a troqué la fonction publique contre l'entrepreneuriat à travers ce magazine de notre correspondante à Cotonou, Ginette Ferradandé.
Sous son apparence frêle se cache une femme énergique qui n'a pas hésité à échanger la sécurité d'une carrière professionnelle bien rangée contre l'incertitude d'une vie d'entrepreneur. Analyste de projet à la base, Alice Koura Yasso est économiste, statisticienne diplômée de la faculté des sciences économiques de l'université d'Abomey-Calavi. Elle raconte comment elle a eu le déclic, comment elle est passée d'analyste de projet à une styliste bien connue au Bénin.
De 2015 à 2016, j'ai travaillé au ministère de l'énergie, à la direction. J'étais restée à la direction de la programmation et de la prospective. À la fin de mon contrat au ministère, j'ai été recrutée dans un cabinet de la place. Il s'est fait que les heures de sortie et les autres contraintes ne m'arrangeaient pas trop vu que j'avais des enfants de bas âge. Donc, comme j'avais déjà une passion pour la couture, mon mari m'a orienté vers ce domaine.
Entre-temps, chasse gardée des hommes, le secteur de la mode est depuis quelques années pris d'assaut par les femmes. Alice s'est laissée emporter par sa passion pour se tracer un chemin.
Étant au ministère, vu que je portais mes propres créations, j'ai deux de mes collègues qui ont même eu à passer de commandes. Donc en 2017, j'ai commencé ma formation en stylisme et modélisme. J'ai fini en décembre 2018. Je me suis installée en 2019, en avril 2019, et j'ai commencé par travailler avec deux ouvriers.
Mariée et mère de deux enfants, Alice lance en décembre 2019 sa première collection dénommée Audace, au détour d'un défilé de mode entièrement organisé par son époux, Désiré Yasso. Fonctionnaire, il aborde la question sans préjugés.
J'ai pas eu de honte à voir mon épouse travailler sur une machine, quelle qu'elle soit. Donc c'était avec un intérêt vraiment sincère que j'ai voulu accompagner ce qu'elle faisait. Comme on n'avait pas envie qu'elle soit une couturière de rue, mais plutôt une styliste, on a essayer de mobiliser un capital plus acceptable pour lui permettre de démarrer. Elle a un atelier de haute couture qui l'occupe beaucoup. Elle n'a pas le temps de penser à autre chose.
En 2021, soit 2 ans après l'ouverture de son atelier de haute couture, elle fut étonnée du nombre de demandes de formation et fut obligée d'agrandir son entreprise en ouvrant un centre de formation dédié au métier de la mode. Son amie d'enfance, avec qui elle a eu le même cursus scolaire et universitaire, n'est pas étonnée de la voir évoluer dans l'univers de la mode. Nadège Segbedi témoigne.
Elle avait toujours une passion pour la couture. Après, nous allons faire l'université, on a eu le master ensemble. Elle a eu la chance de trouver un cabinet, elle travaillait. Mais un jour, elle m'a dit, je vais faire la couture. Je me rappelle très bien, je lui ai dit, tu vas faire le master, aller faire la couture, tu es sérieuse là. Et elle va te prendre pour une seule couturière. Elle m'a dit, non, moi je vais entreprendre.
D'un simple atelier de couture, elle est aujourd'hui la directrice de l'Institut d'études spécialisées arts et métiers IUSAM Sangopa, qui compte à ce jour une 50aine d'apprenants, dont la première promotion sera mise sur le marché de l'emploi dans quelques mois. De Cotonou, Ginette Fleur Adané pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Le 20 mars 1970, à Niamey, au Niger, est née l'Agence de coopération culturelle et technique, devenue ensuite l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Les pays francophones célèbrent aujourd'hui la Journée internationale de la francophonie. Cette année, l'OIF place la diversité des cultures francophones au cœur des célébrations. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint en France Athanase Karayenga, consultant en communication.
Absolument, c'est très important parce que j'ai eu la chance une fois d'assister à un sommet des chefs d'État de la francophonie en Roumanie. Et c'est là que je me suis rendu compte que on n'a pas besoin d'être dans l'ère francophone traditionnelle, classique, en Afrique ou ailleurs. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres peuples qui parlent français en deuxième ou en troisième langue. Une fois même, je me suis amusé en pensant que la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth, elle était absolument francophone. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent, sans être nécessairement francophones dans leur quotidien, avoir le français comme une langue seconde ou tierce, mais qui est aussi source de culture, qui est source de connaissances, qui est source de poésie, qui est source de musique, qui est source d'affaires, sans être nécessairement francophone. Et donc, c'est une excellente idée que les diversités culturelles, linguistiques puissent trouver une place absolument légitime au sein de la francophonie.
Comment encourager, selon vous, l'immense créativité pour exister davantage?
Plutôt travailler dans l'éducation. C'est vraiment dans l'école que ça se passe, à l'université. Soutenir les créateurs aussi, les artistes, soutenir les musiciens, soutenir les créateurs de théâtre, soutenir les médias qui véhiculent, qui utilisent cette langue, soutenir la recherche scientifique. Mais je crois que c'est aujourd'hui, avec l'outil, comme je le disais tout à l'heure, l'outil Internet, franchement, c'est extrêmement facile d'ouvrir les portes de la francophonie, mais de façon extrêmement dynamique et ambitieuse. Et moi, je rêve de grandes universités francophones en Afrique, mais soutenues par l'Union européenne, par exemple, ou la France, ou d'autres pays francophones. Mais des universités qui ont le même niveau que Paris, que Shanghai, que Harvard. C'est là que ça va se passer. Il faut vraiment investir beaucoup, beaucoup dans l'éducation, dans la formation, mais sur le continent africain.
C'était Athanase Karayenga, consultant en communication.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
L'Irak marque aujourd'hui dans la plus grande discrétion les 20 ans de l'invasion américaine et la chute de Saddam Hussein, une guerre qui a déclenché une succession de conflits sanglants. Aujourd'hui, malgré un semblant de normalité, les Irakiens craignent pour leur avenir. Davantage avec Jacques Aristide.
Tout commence le 20 mars 2003. Dans le cadre de l'opération Liberté de l'Irak, quelques 150 000 Américains et 40 000 Britanniques sont déployés pour une intervention éclair aux petites heures du matin.
Saddam Hussein et ses fils doivent quitter l'Irak dans les 48 heures.
Les crimes que Bush Jr. a commis avec ses compagnons sont ceux qu'il avait promis à l'Irak.
Trois semaines suffisent pour sceller le sort du régime de Saddam Hussein et prendre le contrôle de Bagdad le 9 avril. L'objectif affiché de l'administration de George W. Bush était de mettre la main sur les prétendues armes de destruction massive du dictateur. Mais aucune de ces armes n'a jamais été retrouvée. L'Irak de 2023 est loin de la démocratie libérale que George W. Bush envisageait, disent les habitants de la capitale irakienne.
Rien n'a été réalisé, la situation s'est aggravée. La démocratie en Irak est fictive et n'est pas réelle.
Je suis revenue à Bagdad après 25 ans d'absence. Mon cœur battait la chamade et j'avais l'impression d'être dans un rêve. Je me suis demandé comment j'allais agir et ce que j'allais faire. Comment vais-je affronter les choses? Mes sentiments étaient partagés et je n'arrivais pas à les exprimer tous.
Ni le gouvernement fédéral de Bagdad, ni le gouvernement régional du Kurdistan d'Irak n'ont prévu de cérémonie ce lundi. Et le chef du gouvernement, Mohamed Shia al-Soudani, soutenu par une coalition pro-Iran, n'évoque ces jours-ci en public non pas l'invasion américaine, mais la chute du régime dictatorial de Saddam Hussein qui en a résulté. Peu avant le 20e anniversaire de l'invasion américaine, Lloyd Austin, le secrétaire américain à la défense, a effectué une visite surprise à Bagdad.
Les forces américaines sont disposées à rester en Irak à l'invitation du gouvernement irakien. Ces forces exercent actuellement un rôle de conseil, d'assistance et de renforcement hors combat afin de soutenir la lutte irakienne contre le terrorisme.
De 2003 à 2011, année du retrait de l'armée américaine, plus de 100 000 Irakiens ont été tués d'après l'organisation Iraq Body Count. Les États-Unis ont déploré près de 4 500 morts. En ce jour d'anniversaire, les Irakiens songeaient davantage à autre chose qu'aux 20 ans de l'invasion de leur pays. Un pays immensément riche en pétrole, mais où un tiers de la population vit dans la pauvreté et où les services publics sont aux abonnés absents.
La 19e édition du Festival de nouveaux films africains s'est ouverte ce week-end à Silver Spring, dans le Maryland, non loin de Washington, D.C. Au programme, 30 films sélectionnés dans 22 pays africains qui seront projetés jusqu'au 30 mars pour mettre en valeur le dynamisme du cinéma africain, du continent et de la diaspora. Reportage de Nani Talani.
Coup d'envoi du festival a été donné vendredi à 19h au théâtre et centre culturel EFI Silver de Silver Spring. En ouverture, le film Bobby Wine, The People's President, qui retrace le combat que mène le musicien ougandais Robert Kyagulanyi, alias Bobby Wine, devenu politicien et leader de l'opposition au régime de Yoweri Museveni, qui dirige l'Ouganda depuis 35 ans. Le film a reçu un excellent accueil d'un public très diversifié, venu de plusieurs villes du Maryland et des États environnants, pour apprécier la créativité cinématographique du continent africain. Priscillana Ankra, une activiste d'origine ghanéenne vivant à Oakland en Californie, affirme avoir été très touchée par le film.
The movie was beautiful. It was beautifully portrayed.
Le film a été magnifiquement dépeint. Cela m'a brisé le cœur et ça m'a donné de l'espoir que sur le continent, il y a des gens qui se battent pour la liberté et la libération. Et regardant le visage de l'injustice et du mal en choisissant le chemin de la libération et de la justice. Donc ça a vraiment nourri mon esprit.
Toucher le public est l'objectif principal des réalisateurs qui font passer leur message à travers les films, reconnaît Elie Foumbi, une réalisatrice camerounaise qui a grandi et vit dans le Maryland. Elle a présenté le film « Mon père, le diable ».
Chaque fois qu'on est sélectionné, ça veut dire qu'il y a un public qui vient derrière et que le film va être vu. Et finalement, c'est pour ça qu'on raconte ces histoires, c'est pour le public. Donc pour moi, je suis contente, je suis ravie. Pour eux, c'est un honneur.
Pour certains, ce festival leur offre une occasion unique de se connecter ou renouer avec leurs origines. Pour d'autres, c'est l'occasion de mieux connaître l'Afrique. C'est le cas de Néné Abinobi, recruteuse pour l'Association des pharmacistes américains. Elle est née d'un père nigérian et d'une mère jamaïcaine.
Je pense que c'est une opportunité d'en apprendre plus sur mon passé, ma culture et tout le continent auquel moi qui ai vécu aux États-Unis, je n'ai pas été beaucoup exposée.
Les films projetés viennent principalement des festivals comme le FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, qui s'est tenu au Burkina Faso du 25 février au 4 mars 2023.
We look at films that are presented in other major festivals.
On regarde des films qui sont présentés là-bas. D'autres grands festivals au Caire, en Afrique du Sud, à Zanzibar. Et il y a des festivals internationaux à Berlin, à Cannes. Et parfois, On est aussi en contact en direct avec les cinéastes.
La projection de certains films a été suivie de séances de questions-réponses entre le public et les réalisateurs pour une bonne analyse et une excellente compréhension. C'est le cas du documentaire éthiopien « Mon grand-père était un empereur », « Loin du Nil » de l'égyptien shérif El Kacha, « Bravo Burkina » du Nigérian Wale Oedidé ou encore « Mon père le diable » de la Camerounaise Eli Foumbi.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.